Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. L'ONG internationale Human Rights Watch a publié le 4 de ce mois son rapport sur la situation politique en République centrafricaine. Elle a peint un tableau sombre de la démocratie dans le pays. Selon l'ONG, le gouvernement et ses alliés russes excellent dans des menaces contre des membres de l'opposition démocratique et de la société civile. Pour Human Rights Watch, cette pratique fait rétrécir l'espace démocratique et politique en République centrafricaine. L'organisation dénonce le mutisme du président de la République face aux groupes proches de sa formation politique MCU, comme les requins et la galaxie internationale qui menacent des opposants, des journalistes et des membres de la société civile. Le MCU proteste contre ce rapport et le qualifie de partisan. Le gouvernement, lui, s'est indigne et qualifie le rapport de cette ONG internationale de prise de position purement politique. Selon les autorités, ce rapport consiste à accabler les pouvoirs publics, ses partenaires russes et rwandais avec des contre-vérités. Radio Ndekeluka s'intéresse à ce rapport et pour en parler, nous recevons le porte-parole du Bloc républicain pour la défense de la Constitution BRDC, président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC et ancien Premier ministre Martin Zigelou. Bonjour.
Bonjour Monsieur Armando, bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs.
Alexis Duyabella, bonjour à vous aussi.
Bonjour. Bonjour Armando, je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Ndekeluka.
Conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Bangui, cadre du parti MCU et ancien directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Et Paul Cressant Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC, docteur en sciences politiques et président fondateur de l'Institut centrafricain des sciences sociales et de gestion. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Armando Nguindi, c'est moi au centre du débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, nous ouvrons ce débat très rapidement avec vous pour parler évidemment de ce rapport. Vous avez lu ce rapport, Monsieur Zigelé de Human Rights Watch. Quelle est votre compréhension des points soulevés dans ce document?
Je voudrais d'abord dire que non seulement j'ai lu ce rapport depuis sa publication, le 4 avril, mais en plus, quand j'ai vu les différentes réactions, notamment les réactions du gouvernement, les réactions du parti au pouvoir par rapport à ce rapport, je suis allé tout simplement sur le site internet de Human Rights Watch, rw.centrafrique-afrique.org, et j'ai regardé toute la documentation sur les différents rapports qu'ils ont fait sur notre pays. Et j'ai vu que ce n'est pas le premier. Ils ont commencé par un rapport en 2013 sur les Séléka, ce que les Séléka ont fait comme massacre sur des dizaines de personnes en 2013 déjà. Puis un rapport numéro 2 en 2014 sur les massacres qui ont été perpétrés dans le village de Guenaboa. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ils ont fait un troisième rapport en 2016 sur les violences commises par les personnels des missions des Nations Unies et notamment à Bambari, les viols. Et ils ont fait un quatrième rapport en 2016 sur les massacres qui ont été causés par des soldats du contingent de la République du Congo à Boali. Ils ont fait un cinquième rapport sur les exactions commises par le défunt Yekwa Kété quand il était directeur général de l'ECRB. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il est encore vivant, excusez-moi. Il y a le rapport, le sixième rapport, c'était sur l'attaque du camp des déplacés à Kagabandoro. Et le rapport, le septième rapport, c'est sur les violences perpétrées par la Séléka toujours. Donc j'ai vu cela sur ce site-là. J'ai vu notamment également le dernier rapport, l'un des derniers rapports qu'ils ont fait quand, suite à leur rapport de 2016 sur le massacre de Pawa, on a arrêté Eugène Gaïkoussé. Je ne parle pas de sa culpabilité, je parle des faits. Et donc le dernier rapport qu'ils ont fait pour dire que c'était une avancée pour la justice. Et donc ils n'en sont pas à leur premier rapport sur la RCA. Et ce rapport, moi personnellement, je l'ai trouvé en deçà même de ce qui se passe de terrible dans ce pays. Ce pays est en recul sur le plan des libertés, sur le plan du fonctionnement des institutions, sur le plan de la gouvernance économique. Ce pays est pillé par ses propres enfants. Et donc, il y a tous les facteurs réunis pour que ce pays-là ne puisse pas avancer. Ce rapport, c'est du lait par rapport à la réalité.
C'est un peu plat, selon vous, par rapport à la situation.
Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas plat. J'ai dit que le rapport est resté en deçà des réalités. Parce que la réalité est plus violente. Plus violente. Vous m'avez présenté ici comme porte-parole du BRDC, du Bloc républicain pour la défense de la Constitution. Nous avons, conformément aux dispositions de la Constitution et au statut des partis politiques, Nous avons voulu faire un meeting à Bimbo. Nous avons écrit, parce que le régime des meetings en Centrafrique, c'est un régime déclaratif. On ne demande pas la permission, on informe les autorités, notamment la mairie, ou les mairies, qu'on fait une manifestation et qu'on prend les mesures pour la sécurité. On a informé les autorités, après avoir fait le meeting de Mikatex, nous avons été lapidés. Je vous dis lapidés, il y a eu des blessés. Le deuxième meeting qu'on a voulu faire à la place du PK0, on nous a écrit pour nous dire que le PK0 n'est pas destiné à faire des manifestations, des meetings, etc. Alors que des organisations notoires proches du pouvoir, non seulement se permettent d'aller faire des rassemblements devant la Cour constitutionnelle pour insulter les membres de la Cour constitutionnelle, mais en plus encadrés par des policiers, ça, c'est sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je pense que ce rapport-là, il n'est pas le premier. Il y a beaucoup de rapports qui ont été faits sur notre pays, qui ont posé des problèmes réels. Et si j'avais même une opinion personnelle à dire, je vais dire que ce rapport-là a été très tolérant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas allé au fond des choses pour mettre la main sur ce qui bloque ce pays-là, c'est-à-dire le déficit de gouvernance démocratique, le refus de l'altérité, c'est-à-dire des opinions contraires. C'est ça, mon opinion.
On va écouter M. Ndouyabela sur ce rapport, votre point de vue. Vous avez lu aussi.
Je vous remercie, M. Armand. Je ne suis pas venu ici au nom du MCU, parce que je n'en suis pas le porte-parole. Et donc, je ne représente même pas le gouvernement, parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Et je préfère intervenir en tant qu'enseignant-chercheur, professeur à l'université. Et en tant que professeur à l'université, voilà mon point de vue.
Malgré tout, vous êtes cadre.
Oui, je suis cadre de Zana. Même si les opinions que je peux vous
conseiller,
je le suis.
Conseil politique du président de l'Assemblée nationale.
Je préfère rester et puis jouir. Et j'interviens au nom de mon indépendance académique et scientifique. Donc, je dis tout aujourd'hui, ici, en fonction de ce que je sais. Le président Ziguele a rappelé que l'ONG n'en est pas à son premier rapport. Plusieurs rapports ont été, et moi, en tant qu'ancien chercheur, j'ai fait du droit international. En matière d'enquête internationale, il est vivement conseillé, lorsqu'on diligente une enquête, c'est mieux de faire ça en coopération avec les autorités établies. Une ONG débarque et arrive, rédige un rapport et publie sur les réseaux sociaux, et les Centrafricains applaudissent, et qu'ils ne respectent même pas la règle, et on applaudit. Pour moi, qui suis enseignant chercheur, je ne peux pas, en tout cas, je vais être virulent. Je considère ça, ce rapport, comme des rêveries. Je paraphrase Jean-Jacques Rousseau. C'est des rêveries de promeneurs solitaires et puis de tissus de mensonges. Alors, je vais sortir pour réagir. Que même le président dit oui, il y a entorse à la liberté d'expression à la République centrafricaine. En tout cas, ne soyons pas de mauvaise foi. Vous nous invitez ici sur Nekelouk à chaque fois, je crois que la preuve, vous m'invitez, si vous me cataloguez comme un leader de MCU, vous me mettez en face de deux leaders de l'opposition. En fait, il y a la société civile et puis il y a l'opposition. Moi, je suis tout seul pour venir défendre un, alors que je ne suis pas membre du gouvernement.
Et
vous voyez déjà l'inégalité.
Non, je vous rappelle très rapidement.
Deuxièmement,
je voulais lever l'équivoque pour vous dire rapidement que société civile, vous le savez très bien, au milieu de l'opposition et du pouvoir. Vrai ou faux?
Non.
Ah bon?
Ah ben quand on voit, je vais en venir.
D'accord.
Et donc tout à l'heure, là. Alors il dit il y a obstruction à la liberté d'expression parce que les mouvements proches du pouvoir ont organisé des meetings, ils sont encadrés par la police, etc. Et le BDRC, il dit bien, c'est le BDRC a écrit pour et moi qui suis enseignant.
Le BRDC.
Le BRDC.
Pas le BDRC.
BRDC. Voilà. Alors je me pose la question. Moi je me suis rapproché du ministre de l'Administration du Territoire parce que en tant que chercheur, j'ai posé la question. Est-ce que le BRDC est une structure reconnue au niveau du ministère des Affaires de l'Administration du Territoire? Il m'a dit non, on n'a pas encore.
Oh là là, ce débat est dépassé.
Voilà, donc
nous sommes une structure bien reconnue. Il y a un récépissé du ministère de l'Administration.
Donc on m'a dit non. C'est donc, pas alors si on n'est pas une structure bien reconnue au niveau du ministère de l'Administration du Territoire et quand on introduit une requête, c'est tout à fait normal.
Non, non, ce débat est dépassé. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas vrai. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Administration. Sinon, à quel titre nous aurions écrit?
Voilà, et donc.
Si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas écrire.
Voilà, et donc le BDRC regroupe des partis politiques et la société civile. Est-ce que là, c'est respectueux de notre texte? Moi, je dis, je suis juriste. On est dans un état de droit. Est-ce que là, même, vous avez un texte, vous, monsieur le président, qui avez voté la loi portant sur les partis politiques, qui prévoit que Mais les partis politiques peuvent se regrouper. Et donc, quand on fait le BRDC regroupe des partis politiques et des représentants de la société civile. Est-ce que c'est ce que prescrit la loi sur le statut général? Laissez-moi le temps parce que vous avez parlé, je n'ai pas réagi. Et donc, moi, je dis, je réagis en temps parce que je suis partisan qu'on respecte l'état de droit.
Mais on revient maintenant sur le rapport. Avant de parler de.
Et donc, pour moi, j'ai dit, ça, c'est globalement, on y reviendra tout à l'heure. Ce sont des révélés de problèmes. Et puis, les points qui ont été évoqués et touchent, moi, personnellement, de problèmes de droit constitutionnel, on y reviendra tout à l'heure.
Voilà,
là,
on va voir.
C'est relève de ma domaine, depuis de mon domaine.
Monsieur Professeur Beninga, vous représentez, je rappelle très rapidement, la société civile ici. D'abord, votre lecture de ce rapport que vous avez lu, tout comme nous, avant de rentrer dans le vif du sujet.
Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ici par le professeur Ndou Yabla. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Ceci étant, pour moi, je vais réagir sur quatre points. Le premier point, c'est de revenir sur les enseignements qu'on peut tirer d'ordre général sur ce rapport. Le premier enseignement, c'est que les Centrafricains ne lisent pas assez. J'ai envie de dire que les Centrafricains ne lisent pas. Les Centrafricains ne lisent pas assez, ne lisent pas. Je m'explique. S'il n'y avait pas cette interview encore accordée à la radio Ndekeluka, je suis sûr que nous ne serons pas là en train de discuter de ce rapport. Pourtant, ce rapport, il a été édité et rendu public depuis le 4 avril. C'est parce que cette interview a eu lieu qu'il y a eu cette vague de réactions. Et donc, ça témoigne de ce que certaines organisations, qu'elles soient intergouvernementales ou non, certaines entités peuvent produire des rapports, des documents sur la République centrafricaine, sans pour autant que les gens en parlent, simplement parce que ces rapports-là ne sont pas lus. Pourtant, ils sont disponibles. Ça, c'est le premier enseignement à tirer de ce rapport. Le deuxième enseignement à tirer de ce rapport, c'est le fait aujourd'hui qu'on accorde du crédit à ce qui vient de l'extérieur. Parce que ces faits-là, nous en parlons tous les jours, mais on n'y accorde pas suffisamment du crédit. Mais c'est parce que ça a été dit par une organisation
internationale,
par un responsable qui vient de l'étranger, on accorde du crédit à cela. Et donc, le mythe de l'étranger, nous n'arrivons pas encore à le déconstruire. Ceci étant, quels sont les faits sur lesquels nous pouvons discuter dans ce rapport? Pour moi, c'est là que c'est qui est important. Je commencerai par les réactions. Les réactions, il y a eu trois ou quatre réactions. Je vais catégoriser ces réactions-là. La première réaction, c'est la réaction institutionnelle, la réaction officielle. Parce que le gouvernement a réagi par le canal du ministre Balalou, en lieu et place du ministre de la Communication, qui est manifestement empêché. Sinon, c'est lui qui devrait porter la parole du gouvernement. La deuxième réaction, c'est la réaction des politiques, et en l'occurrence du mouvement Cœurs Unis, qui est un parti politique. Et la toute dernière réaction, c'est la réaction des associations. Et ces associations sont des associations politiques qui soutiennent la politique du président de la République.
Mais avant Balalou, je vous rappelle que le porte-parole de la présidence a pris la parole.
Oui, bien évidemment. Ces réactions font partie des réactions officielles, réactions institutionnelles. Oui. Alors, quand vous analysez toutes ces réactions, vous vous rendez compte que manifestement, on a de la peine à se défendre. Les gens ont de la peine à apporter des contre-arguments. Mais pourquoi on a de la peine à apporter des contre-arguments? Simplement parce que des faits qui nous sont reprochés, parce que je parle de la République centrafricaine, en partie, ce sont des faits avérés. Et je vais donner quelques exemples. Il y a ce jeu de ping-pong entre le président Ziguil et le professeur Ndou Yabla sur la question du régime de manifestation. Est-ce que c'est un régime de déclaration ou un régime d'autorisation? Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons dans ce pays la mémoire courte. Cette situation date de 2019. Lorsque Ezingo Biani a été mise en place, aussitôt après, il y a une association des requins qui a vu le jour. Et donc, le DIRCAB actuel du ministère de la Jeunesse réclame le porte-parole en disant que je suis le porte-parole du mouvement requin. Il y avait une manifestation de Ezingo Biani, je crois, dans le 6e arrondissement à Kwetene, et il a fait une sortie appelant les membres du mouvement requin a empêché par tous les moyens la tenue du meeting de Ezingo Biani. Ça témoigne de ce que nous étions en train de basculer dans ce qui a été qualifié comme une manière de restreindre le champ démocratique. Lorsque vous lisez, vous analysez la déclaration ou le communiqué du ministre Balalou, il rappelle deux choses. Il dit il y a des débats à l'Assemblée nationale, mais c'est encore une vision étriquée de la démocratie. L'Assemblée nationale n'est pas l'unique arène, n'est pas l'unique espace politique de débat.
ça fait partie des espaces politiques de débat. Ça fait partie de l'arène politique, mais ne peut pas être considéré comme l'unique arène. Et là, ça pose problème. Deuxièmement, on rappelle à dessein que les maires de la République centrafricaine se sont réunis pour ovationner, c'est l'expression utilisée par le ministre.
Et cette organisation chapeautée par le maire de Bangui. Hein.
Oui, pour ovationner le président de la République. Et là, le professeur Ndou Yabla ne va pas me démentir. Il faut interroger le processus par lequel ces personnalités sont devenues maires. C'est par le biais d'une nomination. À partir de ce moment, leur légitimité, on peut valablement remettre en cause leur légitimité.
Et donc c'est pourquoi vous avez rappelé que ce ne sont pas des arguments
à évoquer pour pouvoir rétorquer à ce rapport-là. Maintenant, il faut rappeler à juste titre les principes de la démocratie. Il y en a plusieurs, mais on peut catégoriser ces principes, on peut en dégager quatre grands principes. Il y a les principes ou les caractéristiques qui définissent la démocratie. Il y a les caractéristiques qui justifient la démocratie, il y a les caractéristiques qui légitiment la démocratie et il y a les caractéristiques qui consolident la démocratie. Mais de toutes ces caractéristiques, on peut dégager principalement trois. Il y a ce qu'on appelle le principe d'égalité en démocratie, il y a ce qu'on appelle le principe de liberté en démocratie et il y a enfin ce qu'on appelle le principe de participation, en l'occurrence de participation politique. Maintenant, le débat se trouve à ce niveau-là. Est-ce que tout le monde ou tous les Centrafricains sont égaux devant la loi? On peut relativiser. Parce que quand on voit que certaines associations ont cette liberté de manifester quand et où elles veulent, alors qu'on interdise à certaines associations, à d'autres, de manifester, c'est-à-dire ce principe d'égalité devant la loi souffre d'ambiguïté. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi un autre élément qu'on peut évoquer. Aujourd'hui, on essaye de créer, de fabriquer des arguments pour faire taire certains leaders d'opinion. Je vous donne un exemple simple. Lisez les déclarations qui sont faites par les associations de soutien à la politique du président de la République. Lorsque vous soutenez un argument contraire à celui de vos adversaires politiques, on rédige une déclaration et on vous assimile automatiquement à la CPC ou au terrorisme. C'est-à-dire, on cherche un argument pour légitimer les moyens de répression, les mécanismes de répression. Et à partir de ce moment-là, la démocratie ne peut que subir un recul. Et si Armando, le dernier point sur lequel je voudrais m'appesantir pour terminer, c'est de rappeler ici que le principe d'égalité devant la loi nous oblige à respecter la loi. Il y a une association qui a été suspendue par le ministère de l'administration du territoire.
Laquelle?
C'est la Galaxie Nationale. Mais qu'est-ce qu'on a observé après? Deux ou trois jours après, la Galaxie a continué de travailler comme si de rien n'était. Et ce principe d'égalité devant la loi souffre d'ambiguïté.
Avant de continuer dans ce débat, je vous invite à suivre l'extrait de l'interview que Lewis Smith, directeur Afrique centrale de Human Rights Watch, a accordé à notre rédaction sur ce rapport.
Oui, bien sûr, nous avons demandé M. Ouattara, le président de la République, de publiquement dénoncer les menaces faites par les groupes liés avec son parti de pouvoir, la MCU. Donc, c'est un peu ironique et contradictoire lorsque vous avez un président qui est en train de dénoncer la parole de haine qui circule sur le réseau social. Mais en même temps, un président qui est en train de soutenir les groupes comme le Requin et Galaxie Nationale, des groupes qui est en train de voir quelqu'un qui est peut-être contre un projet de la MCU comme un ennemi de l'État. Nous, à Human Rights Watch, on est complètement neutre. Mais pour nous, la chose plus importante, c'est de défendre l'espace démocratique, l'espace où les gens peuvent avoir une voix. Et pour nous, quelqu'un qui est peut-être contre un projet d'un gouvernement ou bien un projet d'un parti de pouvoir, ce n'est pas un ennemi de l'État, c'est quelqu'un qui est en train tout simplement de s'exprimer. Et nous avons constaté avec cette grande inquiétude comment les gens qui sont contre, par exemple, le référendum de la Constitution sont tout à coup, ils sont liés comme ennemis de le pays, comme CPC, comme rebelles, comme quelqu'un qui est lié avec un groupe armé. Mais au contraire, les gens, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de dire « Non, je ne suis pas pour ce projet, je suis contre ce projet. » Ça ne dit pas que cette personne en question est un ennemi.
Voilà, c'était donc le directeur Afrique, en écoutant le directeur Afrique centrale de cette ONG, on se rend compte que les responsables de Human Rights Watch avaient déjà rencontré l'autorité centrafricaine avant de rendre public les rapports. Selon M. Mutz, son organisation a demandé plusieurs fois au président de la République de condamner les groupes qui soutiennent ces actions comme les Requins et la Galaxie Internationale, mais plusieurs fois aussi dans ses discours à la nation, le président de la République n'a cessé de dénoncer des messages de haine sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette partie rime à la réalité de l'heure, M. Ziguélé?
Je voudrais d'abord revenir très rapidement pour dire que le débat ici ne consiste pas à dire est-ce que le BRDC est autorisé par le ministère de l'Intérieur. Je pense que ce débat est évacué. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je me suis permis d'interrompre le professeur Nouyabira et je continue. Les discours de haine, votre question consistait donc à savoir
oui,
si
par rapport à ce que vous avez écouté.
Ce que le directeur de Human Rights Watch a dit est une réalité. Toujours dans la documentation que je faisais ce matin avant de venir à cette émission, j'ai vu que le représentant de Human Rights Watch qui vous a accordé l'interview est dans ce pays depuis plus de 10 ans. Et je vous ai dit qu'il en est peut-être à son 7e ou 8e rapport sur la RCA. Et tout cela est consultable sur leur site. Je veux dire les choses de manière imagée. Si les insultes, les injures et les menaces pouvaient tuer, tous les responsables de l'opposition seraient déjà morts et enterrés depuis longtemps dans ce pays. Il y a le fait que le discours officiel, je ne parle pas d'un discours caché, le discours officiel, le chef de l'État, en s'adressant à la nation le 31 décembre 2022, a traité les partis, les responsables des partis d'opposition d'être des complices des groupes armés, d'être des apatrides, des ennemis de la nation, excusez-moi du terme. Et parmi ceux qui sont accusés, il y a des gens qui sont députés à l'Assemblée nationale. Il y a des anciens premiers ministres, il y a des anciens ministres, il y a des cadres, il y a des professeurs d'université. Et c'est le chef de l'État qui tient ce discours. Sauf si nous sommes venus ici pour faire du cinéma, tout le monde sait que sur les réseaux sociaux, régulièrement, nous sommes abreuvés par les communiqués d'un certain Kossimati que je ne connais pas et que je ne cherche d'ailleurs pas à connaître, ou d'un héritier d'Onin qui passe leur temps à insulter. À insulter. Ils ont demandé que des gens apprennent des baseballs pour aller frapper les opposants chez eux, que telle personne habite dans tel quartier, que telle personne habite dans tel endroit. C'est au vu et au su de tout le monde. Donc, le président de la République est le père de la nation. C'est comme si moi, je sortais le matin chez moi et j'autorisais ma fille à insulter son frère ou mon fils à insulter sa sœur, à se déchirer, à s'entraver. Et tout cela est fait à la radio d'État. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise comme preuve? C'est pour ça que je dis que le rapport de Human Rights Watch est très gentil. La question de savoir pourquoi le pouvoir s'agite après ce rapport, c'est à cause de l'écho que rencontrent les rapports de Human Rights Watch sur le plan international. Parce que les rapports précédents de Human Rights Watch ont entraîné des arrestations. Je parle par exemple des bouchers de Pawa. Je ne discute pas de culpabilité toujours, mais je parle des rapports qui sont faits. Je parle des faits précis. Monsieur Nouyabira, qui est professeur de droit et qui connaît la notion de contradiction, dit que dans ce cadre de rapport, on devrait faire ça ensemble. Human Rights Watch n'est pas obligé de faire un rapport avec le gouvernement. Mais ce que le gouvernement peut faire, c'est de faire un contre-rapport. De dire que sur tel point, c'est pas vrai que lorsque l'opposition a demandé à manifester à Bimbo ou au PK0, on a accordé et c'est eux qui ont refusé. Voilà le courrier. C'est des faits. On parle des faits. Moi, je suis pas juriste. Je suis étonné que ce soit un juriste qui me fasse des procès d'intention. Moi, je parle des faits. J'ai les courriers. En tant que porte-parole du BRDC, signé par le ministre de l'administration du territoire, qui nous a dit qu'on ne peut pas manifester au PK0 parce que c'est un endroit où il n'y a pas de manifestation. Le lendemain, Galaxie Nationale et les requins sont allés manifester là-bas et ont remis un mémorandum au président de la République qui est venu lui-même sur les lieux. Quand vous faites ça dans un pays, le principe d'égalité de traitement des partis politiques ou des centrafricains par rapport à la loi, cela est vicié. Mais vous savez, on ne passe pas notre vie à rêver. On observe. On réfléchit et je pense au moins que vous aurez l'indulgence de nous accorder un peu d'intelligence, des choses et des faits. Ce que M. Beninga Kriché a dit par rapport à Human Rights Watch, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que ce que Human Rights Watch dénonce, nous l'avons dit dans les communiqués du BRDC. La société civile l'ont dit longuement dans différents communiqués. Mais ça n'a pas d'écho. Or, Human Rights Watch, c'est une organisation qui est sur le monde entier, qui a les moyens, qui a plus de combien de milliers d'enquêteurs sur le terrain, qui a une audience, qui a entendu, qui a écouté partout dans le monde. Et c'est par rapport à ça que le gouvernement réagit pour essayer de casser le thermomètre. Pas pour faire baisser la fièvre, pour casser le thermomètre. Vous dites qu'on jouit de la liberté politique en Centrafrique. Mais vous, vous êtes conseiller politique du président de l'Assemblée nationale. Vous oubliez les débats qu'on a menés certaines fois ici où vous tentiez de justifier le fait que un juge a écrit à l'Assemblée nationale pour demander qu'on nous poursuive, qu'on lève notre immunité parlementaire parce qu'une enquête aurait dit que un des députés aurait parlé au téléphone avec... Oui, nous, nous vivons ça dans notre chair. Mais comme nous sommes des adultes, nous aimons notre pays, comme vous aussi vous aimez votre pays. Il y a des choses pour lesquelles nous nous battons sans crier sur le toit. Mais aujourd'hui, si vous comparez l'espace politique centrafricain entre 2016 et 2018 et aujourd'hui, aujourd'hui c'est une dictature. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Je vous rappelle qu'entre 2016 et 2018, nous faisions des débats sur Radio Centrafrique, animés par Dimitri Yalamba. Il y avait de l'opposition, le pouvoir, il y avait tout le monde, on débattait. Aujourd'hui, sur l'espace médiatique d'État, c'est-à-dire qui appartient à la nation centrafricaine, quel est l'opposant qui peut mettre le pied là-bas? Sinon, qu'est-ce qu'on entend là-bas? À longueur de journée, des injures. Mais on a été quand même des responsables dans ce pays.
Vous l'avez déjà évoqué, M. Ségué.
Voilà.
Donc, M. Ndoui, vous avez aussi 6 minutes, quelques secondes, merci, comme monsieur, 30 secondes, comme le chrono de M. Ségué.
Je vais revenir point par point sur les points
soulevés par M. Mitian.
Ce qui concerne les discours de haine, la démocratie, je ne sais pas, peut-être à moins que je sois au dernier degré de l'idiotie. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Et tel que ça a commencé à l'époque, Périclès disait à l'époque, mais personne ne doit s'irriter contre l'autre lorsqu'il parle à sa guise.
On parle pas
c'est
des
ça
injures.
Le principe.
On parle de parler.
De démocratie. Et pour répondre là à cette question, oui, mais des injures. Quand je dis, regardez, je me suis également documenté pour venir. Dans la revue de droits de l'homme de 2016, c'est un avocat qui écrit, un avocat Frédéric Frank, avocat au barreau de Bruxelles, il est maître de conférence. Voilà le titre de ce qu'il... Ce n'est pas moi. Vous pouvez le regarder même, président Diguilé. Je peux photocopier, vous allez lire. La liberté d'expression vaut pour des propos qui heurtent, qui choquent, qui inquiètent.
Mais qui n'insultent pas.
Voilà. Mais quand il dit choque,
non,
c'est quoi?
Je peux vous choquer. Je peux vous choquer sans vous insulter.
Donc, voilà, non, sans insulter, voilà.
Oui. Et c'est ce que et nous faisons dans les débats.
Oui,
dis des choses qui
contre nous,
mais sans vous insulter.
On n'insulte pas.
C'est ce
voilà.
que nous demandons aussi dans l'espace politique.
Par exemple, et si vous lisez le rapport, vous voyez, ce qui m'a paru un peu ridicule, ils ont dit, j'ai lu quelque part dans le rapport, en janvier, Doneng a affirmé que Gervais Lakosso n'était pas centrafricain, mais congolais et doit être expulsé du pays.
Si?
Oui.
Si, il a dit.
Alors ça, c'était vraiment c'est de l'insulte. C'est un propos. Non, ça peut choquer. Est-ce que...
Écoutez,
quand on, c'est non, des échanges. Chacun donne... Mais non, mais pourquoi vous me coupez, monsieur?
Non, ouais, je vous coupe parce que quand vous dites des choses qu'on ne peut pas...
Ben voilà,
qu'on ne peut
dis,
pas... Comment vous, qui êtes un juriste, un homme de
mais
droit...
Non, mais...
Est-ce que vous pouvez prouver que Lakosso est congolais? Vous pouvez le prouver.
Mais je peux pas le prouver. Mais est-ce que le fait de dire confirme que le ciel a consulté congolais?
Mais pourquoi il le dit s'il n'a pas les preuves?
Mais c'est la liberté d'expression.
Non, c'est là où on ne peut pas
est-ce
être.
Est-ce que
d'accord.
le fait de le dire,
on
ça confirme exactement qu'il est congolais?
Non, on ne peut pas.
Vous voyez?
On ne peut pas.
Vous
pas. On ne peut pas faire la démocratie par le bas. On ne peut pas faire la démocratie par le bas. Ça, c'est de la plutocratie. C'est pas de la démocratie.
C'est la liberté d'expression.
Monsieur Ségué, oui, reprenez. Je mets déjà votre chrono.
Oui,
reprenez.
Et là, on dit. Oui, vous le perturbez.
Non, je perturbe.
Le temps d'aller
je ne peux pas accepter des choses inacceptables.
Lorsque, voilà. Oui, on a dit tout à l'heure que le gouvernement interdit. Quel est le but de la manifestation? L'autre partie, dans le mouvement, ils ont revendiqué le référendum. Le référendum figure dans la Constitution, oui ou non? Ça figure. C'est une procédure qui est reconnue. On peut demander le référendum. Et puis tout est parti du problème de révision de la Constitution et la réécriture. Et donc, le débat était à ce niveau.
Oui, et donc ils ont manifesté.
Ils ont manifesté pour dire
pour soutenir,
voilà,
pour soutenir
que appeler le chef de l'État à organiser un référendum.
Mais l'autre groupe
ou à réviser la Constitution. Il y a un chapitre de la Constitution qui porte sur la révision. Est-ce qu'on doit organiser une manifestation ou dire non, on ne fait pas de révision de la Constitution? Alors moi, si l'objectif de même de la manifestation c'est pour on organise un référendum pour supprimer le titre 5. Supprime de la révision, ça n'existe
alors,
plus.
Alors là, je regrette.
Ça. Oui.
Que vous tenez ce discours.
Et donc,
vous
non,
qui êtes
monsieur,
professeur
monsieur,
de droit.
Je suis professeur de droit. Je dis et
mais
j'assume.
Vous n'avez pas lu le préambule de la Constitution et la liberté
dis,
d'opinion
mais
du
voilà.
citoyen.
Mais oui,
et la
alors,
liberté d'opinion du citoyen, qu'est-ce que vous en faites?
La référendum.
Monsieur Ségué, vous prenez note, vous allez
le référendum. Le référendum, c'est une délibération du peuple. Pourquoi vous vous mettez la charrue en avant?
Mais pourquoi moi, je ne serais pas contre la constitution dès le moment où
si vous êtes contre la
si vous êtes contre le de toucher les mandats.
Bon, non, bah, vous particularisez. Vous voyez, vous particularisez le débat.
Je ne particularise pas.
Et donc, on ressent sur le référendum.
Non, vous ne pouvez pas.
Le référendum,
déjà, citoyen que je suis, en tant que d'être contre une débat, pourquoi vous réviser la constitution?
Pourquoi
vous contestez?
Vous contestez les actes préparatoires du référendum. On n'en est pas encore là. On est aux actes préparatoires du référendum. Ils contestent.
Et donc c'est pour cette raison qu'il faut accepter ceux qui sont pour aller soutenir.
Lors du référendum, il y aura deux campagnes. Il y a la campagne pour le oui et la campagne pour le non. C'est l'exercice de la démocratie. C'est là où je voulais en venir. Pourquoi empêcher le processus? Non. On ne doit pas organiser le référendum. On ne doit pas faire les révisions. C'est un processus démocratique. Lorsqu'on organise le référendum, c'est le peuple qui est consulté. C'est la démocratie.
Calmez-vous.
Calmez-vous.
Nous n'avons pas empêché aucune manifestation du pouvoir. Nous avons demandé à manifester, nous également,
contre l'exercice de la démocratie.
Mais quand je vais aux élections contre le président de la République,
et donc,
c'est un crime?
Mais non, c'est pas un crime.
Alors si j'émets une opinion contre une initiative du pouvoir, c'est un crime?
Mais non, pas du tout.
C'est vous qui êtes professeur de droit qui dites ça?
Vous n'allez pas me faire une leçon.
Je vous fais une leçon. J'assume parce que moi,
je suis citoyen.
Vous ne comprenez pas.
Alors, vous êtes détendu.
Parlez NAN, s'il vous plaît. Parlez NAN, je vous en prie. Continuez sur votre chrono.
Non, mais perturbe.
Vous perturbez.
Je ne peux pas accepter ça.
Oui, finissez.
Et deuxièmement, réduction de l'espace politique. À plusieurs reprises, vous savez, je viens ici, vous m'appelez, même spontanément, je viens. Dans l'histoire des radios nationales, même là, lors du débat sur le référendum, on a convié l'opposition démocratique, c'est For You TV, télévision étrangère, qui est venue, qui a organisé, et pour recueillir le point de vue des uns et des autres. On m'a convié. En tant qu'enseignant de droit, je suis allé avec elle, les représentants de la majorité présidentielle, et quand je suis arrivé dans la salle, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas invité l'opposition? Les responsables, qui sont des étrangers, on a appelé, personne, ils ont refusé de venir. Donc si vous refusez de participer à un débat organisé, on doit aller vous prendre au cou et à la gorge pour venir.
Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Donc, il y a eu ce débat.
J'ai accepté de venir débattre avec vous. Pourquoi je ne débattrai pas avec vous?
Ça s'est passé à la télévision centrafricaine.
Non, mais je ne suis pas au courant.
À la télévision centrafricaine.
Ça, c'est des manigances. C'est des manigances qui sont
faites. C'est tout le monde qui
pour discréditer l'opposition.
Et donc, quand. Non, c'est moi, j'étais là, monsieur le président.
Finissez.
On m'a appelé. Et puis,
je réponds à toutes les invitations.
Mais c'est ce qu'ils ont dit.
Tous les
débats. Je dis, ce ne sont pas les Centrafricains, ce sont les journalistes camerounais. Je leur ai posé la question, je dis, pourquoi il n'y a pas le bonheur? Ils m'ont dit non, on les a appelés, ils ont refusé de se présenter. Et donc, alors, si vous dites, voilà, c'est Human Rights qui a des échos, etc., parce que le rapport, oui, je veux bien, ça écho auprès du système des Nations Unies. Est-ce que ça écho auprès du BRICS qui est là, qui a signé un accord avec le gouvernement et qui doit réaliser des projets structurants, etc. Je pense qu'il faudrait qu'on change de fusil de poil.
Même si ça a des répercussions
auprès... Même si ça a des répercussions auprès... Si ça a des répercussions... vous étiez en train de faire allusion aux partenaires qui financent. Parce que si, mais c'est ce que vous voulez dire. Parce que l'écho défavorable du rapport risque de jouer négativement sur la politique de
développement de la République centrale. Monsieur Procrisson Beninga, sur ce rapport...
Je l'ai noté. Et fait sur le plan international.
Je parle de notoriété.
Par exemple,
en Centrafrique, Ndekeluka a une notoriété. C'est de ça que je parle, professeur. Je comprends le français.
Mais je sais, c'est une autorité.
Parle de la notoriété de l'institution.
Voilà.
Je n'ai pas dit que...
Ça peut avoir des implications négatives.
Quand Ndekeluka a une autorité en Centrafrique, ce que Ndekeluka dit, les gens écoutent. Et chacun juge et analyse.
Monsieur Procrisson
Beninga, vous jugez le rapport et moi je le juge.
Monsieur Procrisson Beninga, vous prenez la parole. Les auteurs des menaces, comme a dit le rapport, sont connus, eux et leurs organisations. Est-ce qu'il appartient, par exemple, vraiment au président de la République de condamner si la justice ne s'est jamais saisie de ces faits de société?
Je me permets de rebondir sur ce qui a été dit par le professeur Nduit. Cher Alexis, moi, je voudrais vous dire deux choses. Lorsque nous venons pour ce genre de débat, surtout nous qui avons la responsabilité d'éduquer, que ce soit à l'université ou au niveau du fondamental 1 et 2, nous avons une lourde responsabilité de faire de telle sorte que nos propos ne puissent pas s'aimer de confusion au sein de l'auditoire. Vous ne pouvez pas, ici, autour de cette table, dire à M. Martin Zigele que, comme nous sommes dans les actes préparatoires du dialogue, il ne doit pas avoir de contre-discours. Non. Ceux qui défendent le référendum, c'est leur droit de défendre le référendum. Et ceux qui sont contre le référendum, c'est également leur droit de manifester et de dire pourquoi est-ce qu'ils sont contre le référendum. C'est cela la République, c'est cela la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Et c'est également cela l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Donc je rappelle ça à titre d'essai. Et je me permets vraiment une petite, un petit conseil. Vous êtes un aîné à moi, mais je le dis souvent en votre absence. Vous êtes un garçon brillant. On ne peut pas vous le refuser, mais arrêtez parfois de mettre votre intelligence au service de l'indéfendable. Manifestement, là, vous êtes en train de défendre ce qui est indéfendable.
C'est vous qui le dites.
On ne peut pas refuser au centrafricain.
Non, monsieur, il est dans son rôle.
Oui, non, je parle à l'enseignant, je ne parle pas aux politiques. On ne peut pas être un enseignant d'université qui plus est de droit et dire ici que ceux qui sont contre le référendum, puisqu'on est dans les actes préparatoires, ils ne doivent pas manifester. Non,
ça,
c'est une hérésie. C'est une hérésie. C'est soutenir une doctrine contraire à la doctrine juridique. Ça, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas laisser ça passer. Cela dit, je reviens à votre question. Oui, le président peut le condamner. Il doit même le condamner. Mais je veux dire, avant d'atteindre le président, ça témoigne également du niveau où se trouve notre justice en termes de dépendance et en termes d'impartialité. Vous savez, le procureur, et ça je le dis, il est là, a la possibilité de s'auto-saisir sur un certain nombre de questions. Le procureur, la loi lui donne l'opportunité de s'auto-saisir. Lorsque, par exemple, les activités réalisées, les injures peuvent déboucher sur un trouble à l'ordre public, une guerre civile, un affrontement civil, le procureur peut s'auto-saisir. Ça n'est pas le cas. Et il faut aller plus loin. Vous le savez, il y a certains responsables politiques qui ont intenté des actions en justice contre certains leaders d'associations, notamment les associations qui soutiennent la politique du président de la République, jamais le procès a eu lieu. Jamais.
Jamais.
Jamais le procès a eu lieu. C'est-à-dire que la justice fait office d'obstacle.
Et ça, c'est la justice.
Et ça, c'est la justice.
Et ça, c'est pas le président de la République.
Non, ce n'est pas le président de la République, justement. Voilà. C'est pourquoi je dis, avant d'arriver au niveau du président de la République, ces problèmes auraient pu être
réglés ici.
Réglés au niveau de la justice. On n'allait même pas interpeller le président de la République. Et puis, je veux le dire, il faut le rappeler. Par un moment, il faut être clair et serein et le dire. Sans langue de bois, quand vous analysez le discours du président de la République, à un moment donné, vous sentez un revirement. Vous vous rendez compte que le contenu du discours n'est pas de nature à faciliter la cohésion entre les politiques. Et je vais aller plus loin. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas remarqué et je suis obligé de le dire aujourd'hui. Tenez, observez bien le président de la République, le président Touadéra. Avant 2019, ça était toujours un monsieur conciliant. Son discours n'a jamais heurter les sensibilités ou ne va pas au-delà de.
Mais l'homme est changeant, vous le savez.
Oui,
très bien.
Mais en partie de 2019, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je voulais attirer l'attention de l'opinion.
Bord, par exemple.
Je vais réagir. Lorsque Bozizé est revenu à Bangui, le président de la République n'est plus le même. On a senti un changement de comportement. Il s'est senti permanemment en danger. Et à partir de ce moment, quand vous analysez les discours du président de la République, ça va un peu plus fort. Je suis entièrement d'avis, et il l'a dit même à l'occasion de l'an 2 de son second mandat, il a dit en sango, il a dit « Je suis devenu quasiment insensé aux insultes parce que j'ai été tellement insulté. » C'est vrai, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que parfois le président également a été pris en partie, il a été insulté. Mais je veux rappeler que le président est une institution. Et il a deux, trois possibilités. La première possibilité, c'est de faire fi de tout ce qui se passe. Mais ça reste un humain. Il peut être choqué. Et à partir de ce moment, c'est aussi un citoyen au même titre que vous
de
et moi. Il peut saisir la justice. Voilà. Alors, au lieu, par exemple, de basculer...
Et maintenant, la question de l'équité, de l'égalité.
Et effectivement, c'est là où je voulais en venir. Je vous donne un exemple simple. Sur les ondes de la radio Nekeluka, un jour, en passant, j'ai suivi le ministre Balalou qui dit, mais il y a des gens qui insultent le président de la République comme pour justifier pourquoi est-ce que ces associations également insultent. Non, le président est une institution. Le débat ne doit pas être, passez-moi l'expression, en dessous de la ceinture. Ceux qui sont à côté du président de la République doivent amener le président à comprendre qu'il est une institution. Lui, il est au-delà. Il est au-dessus. Il ne faut pas ramener le président au niveau de ceux qui l'insultent.
Exactement. Voilà, mais sur ce point de changement de comportement, je vous invite encore à écouter un autre extrait de l'interview de Lewis. Mutt, directeur Afrique centrale de Human Rights Watch, sur les accusations portées contre les Russes, partenaires du gouvernement.
Nous avons fait lien entre les Russes et Mme Darlan et comment elle était virée, l'ex-président de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, je suis Munju, je ne suis pas centrafricain, mais je suis quelqu'un de la part de Human Rights Watch qui a une connaissance quand même de la RCA. J'étais là en 2015, pendant le forum de Bangui. J'étais là maintes fois en 2016, lorsque la nouvelle constitution a été mise en place. J'ai déjà vu comment la démocratie est menacée avec la présence de Russes en RCA. C'est le Russe maintenant qui est en train de menacer des gens. C'est vraiment à cause de la Russe que les défenseurs de droits de l'homme, ils ont peur. C'est le Russe qui est allé voir Madame Darlan disant que nous sommes obligés de changer la constitution. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le rôle de la France ni la Russe de diriger le pays comme ça.
Voilà, monsieur, je vous donne la parole rapidement, monsieur Ndouya Bella. Si le gouvernement qualifie ce rapport de partisan et tendant à accabler les pouvoirs publics, ses partenaires russes et rwandais par des contre-vérités, n'est-ce pas qu'il a raison? Est-ce que ce sont les Russes qui gèrent, par exemple, l'État actuel?
La RCA est un État souverain, c'est pas un État souverain.
Mais dans ce rapport, on parle de changement de comportement de certains.
Comment les Russes peuvent diriger un pays autonome et souverain? Le président de la République, c'est lui le premier souverain qui représente la nation, aussi bien au niveau interne qu'au niveau à l'extérieur. Si le président de la République est allé en bonne et due forme signer un accord avec les Russes pour l'aider, mais cela participe, ce que moi je l'ai toujours dit, je l'ai expliqué. C'est de l'intervention sollicitée. Et même en droit international, ça existe. Lorsque les institutions de la République sont menacées, le président de la République, qui constitutionnellement peut prendre les mesures qui s'imposent, peut solliciter. On connaissait très bien la situation dans laquelle on était plongé. Au lendemain des élections, le président de la République n'a pas hérité du pouvoir au même titre que le président Macron. Ni au même titre que le président Joe Biden, qu'eux, ils ont sont détenteurs du code secret pour déclencher l'arme nucléaire. Et je le répète assez souvent, il a accédé au pouvoir 300 soldats.
De leur présence, ils influencent en écoutant M. Mutt, comme s'ils influencent le pouvoir.
C'est plus, il le dit en citant en plus une personnalité, il parlait, c'est Mme Darlan. Bon, peut-être c'est de source sûre. Et c'est ça, Mme Darlan a dit qu'elle a reçu la visite, les Russes sont venus lui intimer l'ordre. Bon, ça, il faudrait peut-être qu'elle confirme ici et que moi, je ne peux pas parler à la place de Mme Danielle Darlan. Alors, est-ce qu'un État bien structuré ne peut pas peut-être être à la solde d'une autre puissance étrangère? Voilà, donc je ne sais pas, en fait, je ne peux pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. Je ne peux pas. Est-ce que c'est le Russe qui téléguide la République centrafricaine? Non. La RCA, le président de la République centrafricaine a dit qu'il a ouvert les bras à tous les amis de la République centrafricaine qui peuvent l'aider. Et donc, coopération multilatérale, il peut coopérer aussi bien avec la Russie, avec la France, avec les États-Unis. Et c'est de dire qu'ils sont venus imposer une ligne de compte. Ça, je ne peux pas le dire. Il faudrait peut-être voir avec.
Oui, mais sur cette partie, est-ce que l'ONG, je ne fais pas de la spéculation à ce niveau, puisque nous le savons très bien que même si les Russes sont là, mais les centrafricains eux-mêmes qui gèrent ce pays.
Ma réponse sera en deux parties. La première partie, Beniga Krechem m'a coupé un peu l'herbe sous la bouche, j'allais dire. Et je voudrais dire au professeur Ndouya Bella que moi, je suis un homme libre. Lui aussi, il est un homme libre. La constitution de notre pays, et je sais lire, nous confère les droits. Chaque fois que nous ne serons pas d'accord avec une opinion ou avec une initiative de pouvoir, nous le manifesterons.
C'est normal.
Et ça... parce que vous avez dit que le processus de référendaire était inscrit dans la Constitution et pourquoi nous voulons manifester contre, je n'ai pas compris votre démarche juridique. Et donc, je voudrais vous faire comprendre que je suis un homme libre et tant que je vivrai, je me battrai contre l'injustice et contre l'iniquité.
Vous pouvez me le permettre si ça, vous n'avez pas compris mon raisonnement.
Je peux vous le réexpliquer.
Ne me coupez pas. Maintenant, j'arrive au sujet. Je reviendrai là-dessus.
Au sujet des Russes. Je ne parlerai pas des Russes, je parlerai des Wagner. Je parlerai des Wagner, qui est une organisation de mercenaires et qui influence la vie politique chez nous.
Mais c'est pas ce qui a été dit.
Attendez.
Dans le rapport.
Attendez. Je parlais de Wagner. Parce que des Russes, c'est les Russes qui ont amené les Wagner. Donc, par analogie, il a parlé des Russes. Lorsque nous avions été convoqués, lorsque Boligumba a été convoqué comme coordinateur du BRDC au commissariat spécial du port fluvial, M. Armando, Boligumba était en train d'être écouté par le commissaire dans son bureau et à 100 mètres de nous, devant nous, dans la cour du commissariat, il y avait des Wagner dans un pick-up qui sont venus pour suivre l'événement. Quand nous nous sommes rendus compte que c'était des Wagner, nous nous sommes déplacés vers eux. Et quand ils ont constaté que nous sommes déplacés vers eux, eux aussi se sont déplacés. Et nous avons encore, nous nous sommes encore déplacés vers eux pour aller leur demander qu'est-ce qu'ils font ici. Après, ils sont partis. Je comprends que monsieur Ndou Yabela ne veuille pas se prononcer sur la question, mais moi, je suis... C'est moi qui raisonne comme le juriste et lui, il parle comme, comme il a dit, des rêveries de promeneurs de Rousseau. Madame Darlan, c'est une personne qui existe. Et dans le rapport de Human Rights Watch, on dit que Madame Darlan a dit que des Russes sont allés lui rendre visite pour lui demander comment on peut modifier la constitution pour que le président Touadéra reste au pouvoir. Elle l'a dit, c'est écrit. Elle est vivante. Donc ce n'est pas un débat. Est-ce que les Russes ont le droit de se mêler des affaires intérieures de la RCA? Qui est indépendant? C'est ceux qui sont soumis à la loi des Russes ou c'est ceux qui s'opposent à la loi des Russes? C'est ça la question. Moi, je répète, je suis un homme libre. Je n'insulte pas. Je n'accuse pas faussement. Là, je parle des faits. Cette dame, elle est vivante, elle est à Bangui. Elle a dit dans une interview déjà à la Voix de l'Amérique et elle l'a dit dans l'interview accordée à Human Rights qu'elle a reçu la visite des Russes qui lui ont demandé ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'initiative de changement de la Constitution répond à des intérêts qui ne sont pas endogènes, qui ne sont pas centrafricains. Et je vous ai parlé de la convocation au port. Est-ce que c'est normal que moi, je sois convoqué ou Bolukuba soit convoqué dans un commissariat centrafricain et que des mercenaires Wagner viennent s'asseoir pour suivre ça? Ils le font à qui? Nous sommes leurs esclaves. Nous sommes leurs esclaves. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pour ça que j'ai dit que le rapport de Human Rights Watch, c'est du lait. C'est en deçà de la réalité. Monsieur, mais ce que vivent les centrafricains. Excusez-moi.
Quelques secondes, je vous en prie.
Je suis allé à l'intérieur du pays à deux reprises en janvier ou en février. Monsieur Ndou Yabela, est-ce que vous savez que les Russes interdisent aux centrafricains de traverser les villes à une certaine heure? Vous le savez? Vous le savez ça? La circulation dans notre propre pays. Moi, j'ai dit, je veux passer.
Est-ce qu'ils ne font pas pour respecter la sécurité?
Le couvre-feu qui est encore le couvre-feu, c'est lorsque vous circulez en ville. Moi, je ne suis pas. Quelques mesures de sécurité. C'est vous qui assurez ma sécurité. Vous pensez que je suis un enfant pour ne pas savoir quand je suis en sécurité ou pas en sécurité? Non. L'esclavagisme qui est inclus dans la démarche de cette coopération avec les Wagner ou les Russes, ça ne passera pas avec moi. Donc, en tant que centrafricain, je suis sur la terre de mes aïeux, je suis un homme libre. Nous n'avons pas combattu le colonialisme français pour accepter 60 ans plus tard un colonialisme slave. Ça, il faut que ça soit clair.
Monsieur Procrestan-Bénigas, sur ce point. Monsieur Procrestan-Bénigas, vous voulez répondre tout à l'heure?
Vous répondez rapidement, monsieur. Si vous tout à l'heure, vous ne comprenez pas mon raisonnement juridique. Mon raisonnement juridique, c'est que le référendum, c'est le plus qui se prononce. Et le référendum ne peut pas se tenir.
Moi, je ne fais pas partie du peuple. Je peux me prononcer avant en disant que je suis contre le processus.
Souffrez que j'aille jusqu'au bout de ma logique. Vous me demandez de clarifier et puis je clarifie.
Allez-y. Non, je vous garde tout
le référendum est précédé d'une période de campagne. Et puis moi, l'exercice, c'est ce que je voulais.
Mais pourquoi vous manifestez avant les campagnes pour soutenir les référendums? Vous faites défiler les gens dans les villes, dans les villages. Et vous refusez que nous, on dise que c'est pas
finalement. Je ne parle plus.
Parce
qu'il me demande, heureusement, après lui,
reprenez toujours votre
commentaire. Et donc, je dis tout référendum. Quand toute consultation électorale est précédée d'une période de campagne. Et donc, pendant la période de campagne, c'est un exercice démocratique. Il y en a qui patron campagne pour le oui et campagne pour le non. C'était ça, mon raisonnement. Mais avant, c'était mettre la charrue avant le but. C'est ce que moi, je voulais dire.
D'un côté,
c'était mettre la charrue avant
le but. Mais pourquoi ceux qui sont pour le référendum, pourquoi ils n'attendent pas l'ouverture de la campagne pour faire valoir les idées?
Vous l'avez déjà dit. Non, reprenez encore parce que vous avez 30 secondes à combler.
Voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne, je dis, je ne peux pas me prononcer à la place de madame. Non, enfin, je suis d'accord avec lui. On n'est pas là, on n'est pas passé pour subir encore une. Alors, ce qu'il dit, peut-être, ils sont là pour accompagner le président et maintenir encore la paix à l'intérieur du pays. Alors, vous savez, les rebelles qui interviennent, des fois, prennent les populations en otage. Et eux, est-ce qu'ils connaissent qui est centrafricain ou pas, qui est rebelle? Et donc, il faudrait qu'ils prennent des mesures de sécurité. Et là, malheureusement, peut-être, ça peut poser des problèmes. Moi, je comprends ça de cette manière-là. Parce que là, des fois, vous savez, ils prennent ceux qui sortent, qui font office de Zaragina et qui repartent dans les villages, etc. Est-ce qu'ils les connaissent? Et donc, c'est pour des mesures de sécurité qu'ils passent peut-être au pain fin.
Monsieur Procrestan-Bénigas, sur le deuxième extrait.
Moi, je ne suis plus jamais arrêté à l'arrêt depuis longtemps.
De Lévis Smith que vous avez écouté. Vous avez quelques secondes.
Avant d'évoquer, de revenir sur ce qu'il a dit, je voudrais rappeler ici que si on est sérieux dans l'analyse, avant que les Russes puissent influencer notre politique, c'était d'abord la MINUSCA. Et je vais vous dire pourquoi. En 2014, quand la MINUSCA s'est installée en République centrafricaine, c'est sur la base d'une convention. Nos autorités se sont comportées comme si c'est la première fois que la RCA va accueillir une mission de maintien de la paix. Pourtant, nous le savons tous, plus de 10 missions de maintien de la paix sous la bannière des Nations Unies, de l'Union africaine, tout ce que vous voulez. Or, dans un pays normal, quand on soumet à votre appréciation une convention, avant de la signer, il faut être très regardant là-dessus. J'ai suivi l'actuel DG de l'ENAM se plaindre des exonérations qui constituent un manque à gagner. Ça témoigne de ce que, face à l'étranger, l'État s'est comporté comme un gamin. C'est ce que ça signifie en 2014. Et aujourd'hui, c'est quasiment la même réalité avec les Russes. Alors, vous évoquez tout ce qui a été dit ici, mais je vais vous dire une chose. Allez à Bouda. Vous allez voir que les Russes sont dans le bois. On coupe les bois, même parfois les bois qui ne sont pas à maturation, ça passe. Mais posez-vous la question, est-ce que le service des impôts et des douanes, ces services-là ont posé un regard sur ce qui se passe? Non. Allez dans l'arrière-pays, la population est prise en otage. Je ne dis pas que je suis contre le fait qu'un accord existe entre la République centrafricaine et la République fédérale de Russie. Il est du droit de l'État centrafricain de signer un accord militaire avec n'importe quel État, pourvu que les clauses de cet accord-là profitent à la République centrafricaine. Mais aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, même si le président de la République ne le dit pas, même si ceux qui soutiennent la politique du président de la République ne le disent pas, mais il est mal à l'aise vis-à-vis des exactions qui sont commises par les Wagner. On nous dit dans l'arrière-pays, la population est prise en otage par les Wagner. Est-ce que nous disons que nous sommes des panafricanistes, nous sommes contre le colon français. Mais est-ce que le panafricanisme, c'est de quitter un maître pour se mettre sous la coupe d'un autre maître? Non! Le panafricanisme, c'est de s'assumer, d'assumer la politique. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, je vais vous donner une information. Allez-y vérifier. Et si je mens, le personnel des services des finances peut me démentir. L'État débourse pratiquement 400 millions par semaine pour subvenir aux besoins des paramilitaires, des Wagner. Mais si on fait le total...
Et c'est pour la sécurité.
Oui, c'est pour la sécurité. Mais je vais expliquer. Je vais vous, ma logique, elle est simple. Si on dépense 400 millions... pour la sécurité, et si on prend ces 400 millions-là, on multiplie par 4, c'est-à-dire en un mois, on est à 1 milliard, je crois. 1 milliard 6. Si on a 1 milliard 6 et qu'on décide de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et sécurité, en moins d'un an, on aura des hommes centrafricains capables de défendre les centrafricains.
Je souscris entièrement à ce qu'il a dit. Mais vous savez, on est dans le domaine de la défense. Et en matière de défense, vous savez, ça coûte excessivement cher. Si en 1960, vous voyez, on a signé un accord de coopération avec la France, on a prévu des annexes concernant la gestion concertée, comme c'est pour ça que vous dites que c'est un autre débat. Les annexes qui portent cette convention quadripartite existent encore. En contrepartie de la coopération militaire, et puis il y avait les annexes pour la gestion concertée des ressources naturelles. Et ce que dit Ida, qui est le contraire de ce qui se passe dans la convention avec la France, c'est que, bon, là, dans l'accord militaire, il n'est prévu nulle part la gestion concertée des ressources naturelles. C'est pour cela qu'on assiste à cette exploitation anarchique de nos ressources naturelles qu'on doit corriger.
Oui, merci de me soutenir.
Je voudrais clarifier ma position.
Ça coûte tellement cher. Oui, je suis entièrement d'avis. Voilà. Ça coûte tellement cher. Mais si vous prenez 400 millions ou 1 milliard 600 sur une année, ça nous fait combien? Est-ce que ça ne peut pas renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité? Aussi longtemps que nous restons dans cette dynamique-là, la RCA ne sera jamais indépendante du point de vue de sa sécurité.
Or,
l'enjeu ici, c'est de faire en sorte qu'au bout d'un an, de deux ans, que les Centrafricains soient à même de prendre en charge la sécurité des biens et des personnes sur le territoire centrafricain.
Je pense que le chef de l'État est dans le processus de cet accompagnement pour que d'ici quelques années, on soit totalement autonome.
Je crois que c'est honteux ce qui se passe en matière d'appui aux services de sécurité de notre pays. Je vous ai dit que je viens de rentrer de l'intérieur du pays, où j'ai été à deux reprises, monsieur le professeur, à la frontière de notre pays avec le Tchad. Vous savez que les militaires qui sont détachés là-bas, ils utilisent leurs propres motos pour faire les patrouilles. Ou bien ils louent les motos journalièrement pour faire les patrouilles. Ils souffrent, ils n'ont pas de PGA. Ils s'endettent pour avoir de la viande pour manger une fois par semaine.
Même ici à Bangui.
C'est scandaleux que l'État finance des mercenaires avec des fonds publics, alors que les fils du pays qui sont dans l'armée, qui sont sacrifiés, souffrent.
Monsieur Zikir, je vous en prie. Même ici, à la place de Marabena, il y a un militaire qui m'a abordé, qui me dit il n'a pas le PGA.
Monsieur Ndoui.
Et donc, si vous êtes en contact par rapport à cette situation, n'hésitez pas à passer n'importe et à aider nos forces de défense de l'intérieur à
s'occuper de leur responsabilité. Ce que je fais pour aider, je vous le dis.
Ainsi prend fin cette émission consacrée au rapport de l'ONG Human Rights Watch, organisation qui défend les droits de l'homme on rappelle, elle a dépeint une image mitigée de la démocratie en République centrafricaine. Vous avez compris les points de vue des uns et des autres. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtre tout au long de ces discussions démocratiques. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.